Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Nous allons remonter le temps avec les musiques de chaque époque. La musique ou les chansons rythment le temps de l'histoire. Ou c'est peut-être l'histoire qui impose la cadence. La Commune de Paris et Jean-Baptiste Clément. La Commune de Paris est la plus importante des communes insurrectionnelles de France en 1870-1871, qui dura 72 jours, du 18 mars 1871 à la Semaine sanglante du 21 mai au 28 mai 1871. Cette insurrection, faisant suite aux communes de Lyon et de Marseille, refusa de reconnaître le gouvernement issu de l'Assemblée nationale constituante qui venait d'être élue au suffrage universel masculin dans les portions non occupées du territoire et choisit d'ébaucher pour la ville une organisation de type proudhonien, blanquiste et jacobien, des trois courants de pensée majoritaires de ces insurrections, fondées sur la démocratie directe, qui donnera naissance au communalisme. Ce projet d'organisation politique de la République française, visant à unir les différentes communes insurrectionnelles, ne sera jamais mis en œuvre du fait de leur écrasement lors de la campagne de 1871 à l'intérieur dans la Semaine sanglante, marquée par d'importants incendies, constitue l'épisode parisien et la répression la plus célèbre. La Commune est à la fois le rejet d'une capitulation de la France face aux armées prussiennes menées par Otto von Bismarck lors de la guerre franco-prussienne de 1870 et du siège de Paris, et une manifestation de l'opposition entre un Paris républicain favorable à la démocratie directe et une Assemblée nationale à majorité acquise au régime représentatif. Cette insurrection et la violente répression qu'elle subit eurent un retentissement international important, notamment au sein du mouvement ouvrier et des différents mouvements révolutionnaires naissants. La Commune est de ce fait encore aujourd'hui une référence historique importante pour les mouvements d'inspiration libertaire, la mouvance révolutionnaire issue du mouvement ouvrier et plus largement pour les sympathisants de gauche, y compris réformistes ou encore d'autres mouvements favorables à la démocratie directe. L'implication de nombreuses femmes est également un trait remarquable de cet épisode. Le soulèvement du 18 mars 1871 et la révolte d'une partie des gardes nationaux et de la population parisienne en réaction à la décision du gouvernement d'Adolphe Thiers de reprendre les canons acquis par les Parisiens pendant le siège de la ville par les Prussiens. Il marque le début de la Commune de Paris, la plus importante des communes insurrectionnelles de 1870-1871 qui s'achève par les massacres de la Semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. L'opération militaire est déclenchée avant même le lever du jour, mais une partie des troupes de l'armée régulière, surprise de la réaction hostile des habitants, fraternise avec la foule. Le général Lecomte est arrêté et exécuté en fin de journée à Montmartre, en même temps que le général Clément Thomas, pourtant en civil. Entre-temps, les fédérés prennent le contrôle des principaux lieux de la ville. Pour de nombreux historiens, l'échec de l'opération mal préparée ou retardée souligne l'incapacité d'Adolphe Thiers à rétablir l'ordre dans la capitale. Le gouvernement et les troupes qui lui sont restées fidèles se replient à Versailles, abandonnant Paris aux insurgés. Le comité central de la garde nationale investit l'hôtel de ville et s'empare de l'administration municipale.
Nous sommes en septembre 1870. Aux portes de Paris, les soldats prussiens tirent à feu nourri sur la capitale fortifiée. Après la bataille de Sedan, la France vient de reconnaître sa défaite. Le gouvernement a fui à Versailles, laissant les Parisiens livrés à eux-mêmes. La capitale est assiégée. Rapidement, la nourriture vient à manquer. On mange alors tout ce que l'on trouve pour survivre. Des rats qui pullulent aux éléphants du jardin des plantes. Alors que le climat est insurrectionnel, un événement va mettre le feu aux poudres. Le 18 mars 1871, Adolphe Thiers, le chef du gouvernement, ordonne la reprise des canons de l'armée parisienne, entreposés sur la butte Montmartre.
C'est là où tout a commencé. Au petit matin, quand le soleil se lève, les premiers levés de Montmartre, les habitants, les femmes d'abord, et les hommes à la suite, voient, découvrent ces soldats en train de prendre, de saisir les canons de la garde nationale, et à ce moment-là, ils enveloppent, ils entourent les soldats qui sont là, ils leur donnent un peu à boire et à manger, les soldats vont fraterniser avec la population, refuser d'obéir aux ordres de leur général, et c'est ainsi que tout va commencer à Montmartre.
L'écho du soulèvement populaire se propage aussitôt dans la capitale. Dès l'après-midi, un comité central s'installe à l'hôtel de ville. Le 26 mars, des élections sont organisées.
Et le 28, deux jours plus tard, ici, sur cette place, devant une foule enthousiaste, la commune est proclamée.
La commune a son gouvernement. Il lui faut désormais un étendard. Ce sera le drapeau rouge. Sous sa couleur, le conseil de la commune va prendre des mesures inédites, guidées par un idéal, la justice sociale.
Exemple, la séparation des églises et de l'État, qui sera votée bien plus tard par la République en 1905. Exemple, l'école obligatoire, gratuite, laïque. L'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Toute une série de lois importantes qui ébauchent, si vous voulez, une République plus sociale qu'elle ne le sera pendant assez longtemps.
Le 16 mai, une immense détonation retentit au centre de la ville. La colonne Vendôme, haute de 45 mètres, vient de s'effondrer, sous l'assaut des communards. La statue de Napoléon Bonaparte qui la surplombait gît au sol.
Ça n'a pas été facile. Regardez le monument. Et il a fallu s'y reprendre plusieurs fois. Mais à un moment donné, elle s'est écroulée grâce aux efforts, par conséquent, des communards. Abattre la colonne Vendôme avait cette signification d'anti-guerre de conquête.
Les communards rejettent l'impérialisme napoléonien, tout comme la religion et la bourgeoisie, qu'ils associent au gouvernement d'Adolphe Thiers. Le conseil de la commune permet ainsi l'exécution de nombreux otages, alors que l'armée versaillaise multiplie les assauts contre Paris. Le 21 mai, l'armée d'Adolphe Thiers perce les défenses parisiennes. C'est la semaine sanglante. Les combats font rage et défigurent la capitale. Acculés, les communards mettent le feu à l'hôtel de ville. Plus loin, les troupes versaillaises investissent le cimetière du Père-Lachaise, où sont retranchés les derniers insurgés. 147 d'entre eux sont fusillés contre le mur des fédérés, les premiers martyrs d'un socialisme en devenir.
Le temps des cerises est une chanson dont les paroles sont écrites en 1866 par Jean-Baptiste Clément et la musique composée par Antoine Renard en 1868. Bien que lui étant antérieure, cette chanson est néanmoins fortement associée à la Commune de Paris de 1871, l'auteur étant lui-même un communard ayant combattu pendant la Semaine sanglante.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Jean-Baptiste Clément écrit cette chanson en 1866 lors d'un voyage vers la Belgique sur la route des Flandres. Il fait une halte à Conchy-Saint-Nicaise, dans la maison située près de l'estaminet du lieu-dit de la Poste. La maison entourée de cerisiers anciens inspire alors l'auteur. Des années plus tard, en 1882, Jean-Baptiste Clément dédie sa chanson à une ambulancière rencontrée lors de la Semaine sanglante, alors qu'il combattait en compagnie d'une vingtaine d'hommes, dont Eugène Varlin, Charles-Ferdinand Gambon et Théophile Ferré. À la vaillante citoyenne Louise, l'ambulancière de la rue de la Fontaine-au-Roi, le dimanche 28 mai 1871, à la fin des paroles, il explicite cette dédicace. Puisque cette chanson a couru les rues, j'ai tenu à la dédier, à titre de souvenir et de sympathie, à une vaillante fille qui, elle aussi, a couru les rues à une époque où il fallait un grand dévouement et un fier courage. Le fait suivant est de ceux qu'on n'oublie jamais. Le dimanche 28 mai 1871, entre 11h et midi, nous vîmes venir à nous une jeune fille de 20 à 22 ans qui tenait un panier à la main. Malgré notre refus motivé de la garder avec nous, elle insista et ne voulut pas nous quitter. Du reste, 5 minutes plus tard, elle nous était utile. 2 de nos camarades tombés, frappés, l'un d'une balle dans l'épaule, l'autre au milieu du front. Nous sûmes seulement qu'elle s'appelait Louise et qu'elle était ouvrière. Naturellement, elle devait être avec les révoltés et les lasses de vivre. Qu'est-elle devenue? A-t-elle été, avec tant d'autres, fusillée par les Versaillais? N'était-ce pas à cette héroïne obscure que je devais dédier la chanson la plus populaire de toutes celles que contient ce volume? Dans la commune Histoire et Souvenirs, en 1898, Louise Michel rappelle cette dédicace en indiquant indirectement qu'elle n'est pas la Louise du temps des cerises. La chanson n'a pas été créée durant la commune, mais une raison stylistique explique cette assimilation du temps des cerises au souvenir de la commune de Paris. Son texte suffisamment imprécis, qui parle d'une vraie plaie ouverte, d'un souvenir que je garde au cœur, de cerises d'amour tombant en gouttes de sang, ces mots peuvent aussi bien évoquer une révolution qui a échoué qu'un amour perdu, évoqué, semble-t-il, à travers le souvenir d'une défloration. On est tenté de voir là une métaphore poétique évoquant de manière indirecte une révolution. Dans cette interprétation, les cerises représenteraient les impacts de balles, balles auxquelles il serait fait allusion à travers l'image des belles qu'il vaut mieux éviter. Mais le simple examen de la date de composition, en 1866, montre qu'il s'agit là d'une extrapolation postérieure. Il s'agit en fait d'une chanson évoquant simplement le printemps et l'amour, particulièrement un chagrin d'amour évoqué dans la dernière strophe. Le temps des cerises est l'une des chansons les plus enregistrées en France, sinon la chanson la plus enregistrée, et ceci dès les débuts, vers 1895, de l'industrie phonographique. Le mois de septembre 1873 a été marqué par plusieurs événements significatifs. Le 16 septembre, fin de l'occupation allemande en France. Le 18 septembre, panique bancaire à Wall Street, déclenchant une crise économique qui s'étendra à l'Europe et aux États-Unis. Le 1er septembre, c'est l'inauguration de la route en corniche à La Réunion reliant Saint-Denis à la Possession. Et enfin, le 16 septembre 1873, c'est l'évacuation de Verdun par les troupes allemandes, marquant la fin de l'occupation militaire. Ces événements ont eu un impact significatif sur l'histoire économique et sociale de l'époque. Le 8 septembre 1873, c'est la naissance d'Alfred Jarry, poète, romancier, dramaturge français. La vie parisienne est un opéra bouffe de Jacques Offenbach, livré de Henri Mélac et Ludovic Halévy, créé au théâtre du Palais Royal le 31 octobre 1866 en 5 actes, puis en 4 actes le 25 septembre 1873 au théâtre des Variétés.
Bouvons et chantons!
Cette œuvre comprend plusieurs personnages inspirés des nuits parisiennes de l'époque qui vont réapparaître dans la pièce de 1866, ayant été auparavant évoqués dans 3 œuvres. En 1862, Henri Mélac et Ludovic Halévy présentent au théâtre du Vaudeville la clé de Métella, une comédie en un acte qui met en scène un dénommé Gontran, aperçu par son amante dans la loge de Métella, une demi-mondaine. L'année suivante, en 1863, les mêmes présentent au théâtre du Palais Royal Le Brésilien, une comédie en un acte. Pour cette œuvre, Jacques Offenbach compose un duo entre un dénommé Greluche, interprété par Jules Brasseur, créateur du Brésilien dans la vie parisienne, comédien se faisant passer pour un Brésilien, et un dénommé Blanc Partout, interprété par Gilles Pérès, créateur de Bobinet. En 1864, Meillac et Halévy présentent dans ce même théâtre Le Photographe, une comédie vaudeville en un acte. L'action se déroule chez Raoul de Gardefeu, interprété par Gilles Pérès, créateur de Bobinet, qui joue le rôle d'un photographe pour courtiser la baronne de Gourdakirch, alors que son époux, le colonel baron de Gourdakirch, interprété par Lassouche, créateur de Urbain, a jeté son dévolu sur Métella, elle-même amante de Raoul de Gardefeu. Le 22 janvier 1963, c'est la signature du traité de l'Élysée par le général de Gaulle et le chancelier allemand Adenauer. Le 26 juin, discours de John F. Kennedy à Berlin. Ich bin ein Berliner. Le traité de Moscou entre l'URSS, les États-Unis et le Royaume-Uni, suivi de 99 puissances interdisant tous les essais nucléaires dans l'atmosphère, l'espace ou sous la mer à l'exception des essais souterrains, est signé le 5 août 1963. Il entre en vigueur le 10 octobre 1963. C'est aussi la mise en place, cette année-là, du téléphone rouge entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Le 22 novembre 1963, le président John F. Kennedy est assassiné. Le 10 décembre, le prix Nobel de la paix est attribué au Comité international de la Croix-Rouge. L'assassinat de John F. Kennedy, 35e président des États-Unis, a lieu le vendredi 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas, à 12h30. Le cortège présidentiel traverse à vitesse réduite le centre de la ville. Lorsque la voiture présidentielle décapotée passe sur Dealey Plaza, John F. Kennedy est mortellement blessé par des tirs d'armes à feu.
John Kennedy a été abattu par les balles d'un fou à Dallas, où son passage soulevait les acclamations de la foule. La nation tout entière pleure maintenant son président, le 35e de la Grande République voisine. Le chef de la Maison-Blanche a été assassiné à distance par les balles tirées du 5e étage d'un immeuble proche de la prison locale. Le président, qui effectuait la 3e étape de son voyage au Texas, arrivait de l'aérodrome dans sa voiture découverte quand soudain l'air fut déchiré par 3 coups. Le président, le crâne en sang, s'affaissait sur la banquette, de même que le sénateur Connolly, qui était blessé à la poitrine. Seule Mme Kennedy échappait par miracle aux balles de l'assassin. Son mari, dans un état critique, était aussitôt dépêché à l'hôpital où 2 prêtres lui administraient le sacrement de l'extrême onction. Malgré les transfusions de sang, Kennedy, qui aura été un des présidents les plus populaires des États-Unis, succombait à ses blessures. Il était exactement 2 heures, heure normale de l'Est. Ici Jean Grenando à Washington.
Une heure et demie après la fusillade, un homme, Lee Harvey Oswald, est arrêté dans un cinéma pour avoir tué un policier, identifié comme un des employés du dépôt de livres scolaires, bâtiment d'où on a tiré sur le cortège selon des témoins, et au 5e étage duquel on a retrouvé un fusil à lunettes lui appartenant. Il est considéré par la police de Dallas comme le principal suspect de l'assassinat du président. 2 jours après seulement, lors de son transfert à la prison de Dallas, il est à son tour assassiné par Jack Ruby, propriétaire d'une boîte de nuit.
Dallas, le 22 novembre 1963. Cette date, qui a provoqué la stupeur du monde entier et des Américains en particulier, n'en finit pas de nourrir les hypothèses parfois les plus folles. Un complot de la CIA, du FBI, la mafia serait-elle de la partie, ou encore l'opposition au régime cubain, le KGB a-t-il guidé le tireur Lee Harvey Oswald, était-il le seul tireur, et qui est Jack Ruby, patron de boîte de nuit? Pourquoi a-t-il tiré sur Oswald? En grande partie, les documents qui viennent d'être publiés concernent justement Lee Harvey Oswald. L'un d'eux relate l'interrogatoire d'un ex-agent du KGB, confirmant qu'Oswald était effectivement recruté par le renseignement russe, mais rapidement délaissé car considéré comme un peu fou et imprévisible. Ces nouveaux documents ne vont pas provoquer de déflagration sur Washington, ni convaincre les 80% d'Américains qui doutent de la version officielle, celle du tireur isolé. Joe Biden s'est empressé de prévenir. Un nombre limité de documents ne pourra jamais être rendu public pour des raisons de sécurité.
Parce que ça peut mettre en cause un certain nombre de personnes qui sont peut-être pas toutes disparues. Ça met en cause des réseaux, ça met en cause des méthodes. Et ils n'ont pas tellement envie de le rendre public. Et deuxième chose, dans le cas de Kennedy, ça met peut-être en cause aussi l'incapacité du KGB et de la CIA, sans doute, à arrêter cet assassin qui était par ailleurs surveillé.
Bon nombre d'historiens américains s'entendent sur un point. Il est peu probable que les quelques archives qui restent secrètes contiennent des révélations susceptibles d'éteindre les théories du complot sur cette journée du 22 novembre 1963.
En 1963, John Lennon et Paul McCartney écrivent tout le temps, en n'importe quel endroit, dans le bus qui les amène d'un lieu de concert à l'autre, dans leur chambre d'hôtel, dans un coin des coulisses avant de monter sur scène, dans l'urgence, avant d'enregistrer, quelquefois en une seule prise, autant de titres qui vont marquer leur histoire et celle de la musique rock. En tête des ventes, Please Please Me n'est remplacé à la première place que par le deuxième album du groupe, With the Beatles, publié le 22 novembre 1963. Close your eyes and I'll kiss you.
Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I'll kiss you.
All My Loving est une chanson des Beatles écrite en 1963 par Paul McCartney, bien que crédité Lennon-McCartney. Les circonstances de la composition sont floues, mais il est certain que McCartney a écrit les paroles avant la musique, ce qui est chez lui inhabituel. La chanson, mélange de country, de rock et de pop, traite de l'éloignement et des futures retrouvailles de deux amoureux à une époque où le compositeur entame une relation avec l'actrice Jane Asher. Enregistrée le 30 juillet 1963, la chanson paraît le 22 novembre suivant sur l'album With the Beatles. Elle donne également son titre à un EP du groupe. C'est enfin la première chanson interprétée par les Beatles lors de leur premier passage au Ed Sullivan Show à New York le 9 février 1964. Elle a fait l'objet d'une cinquantaine de reprises, entre autres par Duke Ellington. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. À bientôt.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.